la technologie elle-même, blockchain, a permis de faire autre chose que de la monnaie. Donc au début, le token, c'était quoi? C'était le Bitcoin. C'était l'expression de la blockchain. On s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, le token, ça peut être autre chose que de la monnaie. Et qu'en fait, la monnaie, c'est vraiment l'aspect probablement le moins intéressant ou le plus facile de la blockchain. On peut faire plein d'autres choses.
Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation et un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes.
Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Ma Question Préférée. On a mis un petit mois à régler les problèmes de production, mais ça y est, on est bon. Donc pour attaquer cette saison, on va parler de deux sujets hyper intéressants qu'on va relier ensemble, qui sont la crypto et également l'immobilier, puisque mon invité, Jean-Marc Jacobson, a créé une société qui va nous permettre de tokeniser l'immobilier. Donc c'est très complexe, on va être le plus pédagogue possible. Salut Jean-Marc.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Je suis ravi de t'avoir pour ce premier épisode de la saison 2. Question basique et traditionnelle, peux-tu nous expliquer déjà ton parcours, la création de Realty, sa genèse, et tout simplement dans ces détails nous expliquer pourquoi tu es légitime à nous parler d'immobilier et de tokenisation d'immobilier.
Très bien, avec plaisir. Donc, mon frère et moi venons du monde immobilier au Canada.
D'accord.
On a créé, donc on est Canadien, on a créé une foncière à travers les années, en démarrant avec un petit immeuble et puis un autre et encore un autre.
Quelles années?
90. C'était en plein moment où il y avait le référendum au Québec, où le Québec voulait être indépendant. Et la question qui se passait à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on peut quitter le Montréal le plus rapidement possible? C'était dans l'air du temps, tous les quartiers généraux des grosses compagnies qui traditionnellement étaient à Montréal, même si le gros de la compagnie était à Toronto, par exemple, avaient quand même leurs quartiers généraux à Montréal. Ils déménageaient tous en vrac, en masse, je devrais dire, pour aller donc à Toronto, ce qui implique que toute l'équipe des CTO, CEO, secrétaires, etc., quittaient aussi Montréal. Et à cette époque, il n'y avait pas une seule grue à Montréal, dans tout Montréal. Hein. Donc l'immobilier n'était pas cher, évidemment, puisque tout le monde voulait vendre et partir. Et c'est là où Rémi et moi, nous avons décidé de faire notre première acquisition. Et de là, on en a fait une, puis deux, puis trois. Et on a travaillé donc dans l'immobilier résidentiel, dans la gestion, le management, les financements, les travaux, les évictions quand il le faut, les rénovations quand il le faut, le refinancement, etc.
Tout ce qui est la peine de l'immobilier résidentiel.
Absolument. Les augmentations de loyer, ce qu'on appelle la régie du logement. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a l'équivalent, mais c'est quand quand un locataire ne se tient pas bien, eh ben on va en cour, mais il y a une cour spécifique pour les locataires.
Le tribunal d'instance.
D'accord. Ouais. Et donc, c'est la régie du logement et on passe des journées là-bas de temps en temps.
Tu as des procédures longues d'éviction au Canada?
Non.
Non, c'est beaucoup plus court qu'en France, je présume.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'au Canada, au bout de un mois, entre un et trois mois, l'affaire est réglée, oui.
D'accord. Donc ça, on va le voir dans l'épisode. Ça va aussi répondre à une question de risque locatif, comment on l'appréhende. Parce que c'est un vrai sujet, c'est une peur, notamment l'épargnant français et l'investisseur immobilier français a cette peur du loyer impayé. On va parler un petit peu de comment tu maîtrises tous ces risques. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce terme qu'on entend de plus en plus, qui sont des tokens, où là je m'excuse pour les fanas de crypto, le but c'est d'être le plus pédagogue possible. Pour les personnes qui souhaitent regarder l'épisode avec Alexandre Stachenko de la saison 1, où on explique un petit peu la crypto aux boomers, comme on dit gentiment, avec bienveillance, comment ça fonctionne, allez voir cette esquisse sur vous expliquer un petit peu la blockchain, comme ça on gagne du temps à pas expliquer toutes ces définitions-là. Donc oui, qu'est-ce que c'est un token et comment tu tokenises, donc la tokenisation, et quel est l'intérêt d'avoir un token immobilier?
Très bien. Alors, le concept de token, ça veut dire jeton en fait, a démarré avec Bitcoin.
D'accord.
En fait, Bitcoin, qui est une monnaie digital, je dis bien une monnaie, ça a été inventé et ça se veut être une monnaie, repose sur une technologie qu'on appelle la blockchain, dont tout le monde a entendu parler ici, qui en fait n'est qu'un registre décentralisé. Décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de compagnie ou de serveur central, mais c'est partagé à travers plein de différents ordinateurs qui travaillent ensemble ce registre. Donc, le token lui-même est une expression de cette blockchain et les mineurs, ceux qui travaillent cette blockchain, sécurisent le réseau en échange d'une récompense qui s'appelait le Bitcoin. Et le Bitcoin devenait échangeable. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que la technologie elle-même, blockchain, a permis de faire autre chose que de la monnaie. Donc au début, le token, c'était quoi? C'était le Bitcoin. C'était l'expression de la blockchain. On s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, le token, ça peut être autre chose que de la monnaie. Et qu'en fait, la monnaie, c'est vraiment l'aspect probablement le moins intéressant ou le plus facile de la blockchain. On peut faire plein d'autres choses. Avec l'avenant d'Ethereum, on a pu créer des contrats intelligents. On aurait pu en théorie le faire sur la blockchain de Bitcoin, mais le langage de scripting n'existait pas et c'était trop difficile. Donc, Ethereum l'a permis.
La technologie Ethereum a permis d'avancer.
Exactement. Et donc, d'utiliser la blockchain facilement ou relativement facilement pour d'autres choses que la monnaie. Et c'est là le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée. Cette nouvelle industrie qui explose un peu de partout et de façon, on va dire à tâtonnement, mais on va dire aussi de façon incertaine, les choses sont encore en train d'être décidées, d'être faites et d'être construites. Donc ce token, aujourd'hui on peut avoir des contrats qui sont des algorithmes, qui sont des programmes en fait, qui sont gérés à partir d'une expression d'une blockchain, donc un jeton. Et ce jeton, ce token est une expression de cet ensemble de contrats et de sous-jacents qui le régissent. C'est entièrement dématérialisé, certes. Ceci étant, le jeton lui-même, le token, donc, peut exprimer des choses qui sont réelles dans le monde.
D'accord.
Par exemple, l'immobilier. Alors, ce n'est pas direct.
On va regarder un petit peu ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu n'as pas la techno pour tokeniser une maison, un appartement. Donc, tu vas passer, je présume, via un système d'achat de société, c'est ça ?
Tout à fait.
Où là, les titres, tu vas pouvoir tokeniser en fait des titres de propriété.
Alors, aujourd'hui, le registre foncier n'est pas sur une blockchain.
D'accord.
Donc, c'est absolument impossible de tokeniser directement un bien immobilier. Donc, on doit tokeniser une compagnie, ce qui est possible maintenant et ce qui est reconnu aussi. On peut dire que l'expression d'une compagnie par action ou par membre, une SARL, je pense, en France ou une LLC aux États-Unis, oui. Ça n'a pas d'action, mais on peut tokeniser, on peut exprimer les intérêts en token cryptographique. Et c'est reconnu. C'est-à-dire que j'ai ce token, donc je suis propriétaire en part de cette compagnie. C'est reconnu, ça marche légalement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une compagnie qui achète un bien immobilier. Le propriétaire de registre, c'est la compagnie. Sur le registre foncier, on voit la compagnie qui apparaît comme propriétaire. Et les actionnaires ou les bénéficiaires, selon la forme corporative, les bénéficiaires de cette compagnie sont les token holders. Aussi simple que ça.
Propriétaire. Donc, pour bien expliquer, on va dire, dans un schéma, donc avec ton frère Rémi, puisqu'il est cofondateur. Et c'est lui, je suppose, qui est un peu plus sur place.
Il est sur place.
Voilà. Qui fait un petit peu les visites, le sourcing.
Qui continue à faire l'immobilier, la main dans l'immobilier. Il a 10 ans de moins, c'est son tour.
Et du coup, donc pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, donc vous ciblez des biens avec une bonne rentabilité, on va venir dans la partie IMO. L'idée, c'est que du coup, vous allez avoir des loyers. Vous allez toucher des loyers. On va, l'investisseur va vous acheter un token qui vaut combien, le prix d'entrée pour un token?
$50.
$50, très bien. Donc,
environ, ça change de propriété en propriété, mais...
Le token holder, il achète un token par bien immobilier ou c'est un parc immobilier?
Non, chaque propriété a sa propre compagnie et cette compagnie est exprimée par un token différent. D'accord. Donc, si on va avoir trois propriétés, il faut acheter, enfin, une part de trois propriétés, il faut acheter trois tokens différents.
Donc, tu crées une LLC, qui est le nom de la société, le statut de la société.
Aujourd'hui, c'est une LLC, ça sera, enfin, déjà, ça change. Ça va être une Inc.
D'accord. Oui. Bon, on va pas rentrer mais dans, ça rentre, dans les techniques
voilà, tout à fait.
Américains. Grosso modo, tu achètes en société, tu crées une société par actif, par bien.
Tout à fait.
Voilà. Donc après, tu as ton token. Donc toi, tu vas recevoir des loyers.
La compagnie reçoit des loyers, des tout loyers, à fait, oui.
Donc en dollars.
Oui.
Déjà, j'ai oublié une question. Pour payer ton token, je peux te l'acheter en euros ou est-ce qu'il faut que je te l'achète en dollars ou en crypto?
Alors le bien est dénommé en dollars US. D'accord. C'est de l'immobilier. Oui, oui. On le paye comme on veut. On peut le payer avec sa carte de crédit, on peut envoyer des cryptos, on peut faire...
Un investisseur peut acheter le token sur n'importe quelle devise.
Oui, moi je le convertis en dollars US.
D'accord.
Moi j'ai besoin de dollars US pour acheter la propriété et les rénovations et la maintenance se fait en dollars US.
Donc, ça me fait penser que j'aurais dû le dire avant, mais comme on est sur des produits financiers, donc là on est dans un flou juridique, je rassure nos amis de l'AMF, on prend les précautions, il n'y a aucune recommandation dans ce podcast-là, on ne fait pas d'appel public à l'épargne, on est justement dans une idée de vous donner du contenu. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle la communauté crypto, on a cette expression « do your own research ». Mais j'estime que mes clients qui n'ont pas le temps de certaines personnes qui sont jeunes, qui ont un peu plus de temps, pas d'enfants en bas âge à gérer, pas tout ça n'ont pas le temps de faire, donc on vous donne le plus de ressources possible en étant le plus pédagogue, et Dieu sait que c'est pas facile, mais on essaie. Donc, prenez votre risque en état de cause, on va lister un petit peu les risques de manière totalement impartiale, et ce qu'on peut voir que comme un investisseur français qui va te payer en euros, il peut avoir déjà un risque de change sur son placement, puisque toi, tu vas le convertir en dollars.
Absolument.
Voilà. Donc, ça, c'est un premier risque.
C'est une première amorce. Voilà. Absolument.
Donc, rappelons également qu'on va parler de performance, qu'il n'y a jamais de performance élevée sans risque élevé, et qu'on parle toujours de performance passée et jamais de performance future, parce que croyez-moi, si j'avais la possibilité de vous donner des performances futures, je ne ferais pas un podcast gratuit et je vous les facturerais très cher. Ce service-là.
Il y en a dans la finance décentralisée qui disent qu'ils ont développé un algorithme d'intelligence artificielle qui prévoit le futur. Voilà. Voyons donc.
Exactement. Donc oui, pour revenir, donc moi, je t'achète en tant qu'investisseur un token. Toi, tu vas me donner au prorata temporis de mon token les loyers.
Absolument.
Voilà, ce qui me donne mon rendement.
Net.
Net.
Prorata temporis, moins les frais de gestion, les réserves, les frais de rénovation, etc. L'immobilier, c'est vivant.
Ce qu'on appelle le report à nouveau, notamment dans le langage des SCPI, c'est ce cash que tu vas mettre de côté pour prévenir des aléas et qui te permet de maintenir à l'investisseur le rendement et pas qu'il y ait des fluctuations de rendement parce que ben là, la maison, il a fallu faire la toiture, du coup.
Il y a quand même dans le cas actuel, il y a des fluctuations de loyer. Donc, c'est un autre risque. Même là, il y a des fluctuations de loyer malgré les réserves. Puisqu'elles ne sont pas groupées, chaque compagnie est indépendante. Donc il y a nécessairement des fluctuations de loyer. Ouais. En plus.
Mais est-ce que tu peux, c'est ce que font les SCPI, là, désolé, c'est un peu technique, mais envoyer du cash, peut-être que réglementairement parlant, tu n'as pas le droit, mais ce que font les SCPI, certaines, pour maintenir le rendement, l'investisseur ne le voit pas, lui il voit un virement sur son compte bancaire, mais grosso modo il y a 80% de partie de loyer et 20% c'est du revenu mis en réserve pour maintenir un rendement de 100%.
Non, on ne fait pas ça.
D'accord. Toi c'est vraiment sur la partie technique, travaux, pour payer tout ça que tu fais de la réserve.
Absolument.
Ok, c'est alors, pas pour prévenir des loyers ou...
Alors s'il y a un déséquilibre qui peut se faire, des réserves pour des propriétés qui en ont moins besoin que d'autres, qui n'en ont pas assez, ça fait partie du fait qu'on achète des propriétés indépendantes.
D'accord. Donc, pour revenir sur le schéma, tu reçois les loyers.
Oui.
Toi, tu vas les mettre dans un exchange.
Alors, on va les convertir en dollars. On reçoit des dollars US.
Oui.
Donc, on va les convertir dans ce qu'on appelle un stablecoin. Un stablecoin, c'est quoi? C'est un token. Mais c'est ça se veut être monnaie qui a un ratio de 1 pour 1 par rapport au dollar US. Donc, 1 USDC pour Coinbase ou USDT égale 1 dollar US.
Donc, 1 USDC pour Coinbase ou USDT égale 1 dollar US.
D'accord.
La différence, c'est que c'est sur blockchain.
Le jour où le gouvernement fédéral mettra son dollar US sur une blockchain, on utilisera ce dollar US. Et pareil pour l'euro, quand ce sera là.
Alors, grosso modo, pour les gens qui sont dans la crypto et qui connaissent un petit peu, l'exchange, c'est une plateforme qui va te permettre de transformer du dollar en crypto-monnaie, pour vraiment vulgariser.
Oui.
Voilà. On a un débat parmi la crypto et des copains qui m'écoutent, et j'embrasse Bart, qui est un copain mineur qui est à fond dans le Bitcoin. Et on en a parlé pas plus tard qu'hier par SMS. Le débat, c'est est-ce qu'on est dans un exchange? Problème de l'exchange, c'est que s'il y a un souci, un aléa sur l'exchange, on peut avoir un risque supplémentaire. Autre possibilité, c'est de le mettre sur un wallet personnel, notamment chez Ledger ou autre. On n'est pas là pour faire de la pub pour Ledger, même si c'est très bien. voilà. Mais grosso modo, et ça a un avantage, c'est que vous n'avez pas ce risque au niveau de problème que pourrait trouver l'exchange, avoir l'exchange, pardon. Mais du coup, il y a un problème de sécurité, de savoir gérer...
C'est très important ce que tu dis.
Voilà, de savoir gérer sa clé crypto, de ne pas la perdre, voilà. Et même, j'en discutais avec d'autres copains, je dis qu'est-ce qui m'arrive? Si je sais où est ma clé, je connais mes numéros, mais j'ai un accident de vélo, je fais une amnésie, voilà, c'est caricatural, c'est des soucis.
Non. Mais... Bon, il y a eu plus bizarre dans la réalité.
Voilà, hein. Où malheureusement, on a eu un fait divers en France, je ne sais pas si tu as suivi, quelqu'un qui a pris des coups de couteau, qui est mort pour qu'on lui donne, pour qu'il donne son ses cryptos, hein. Je crois que c'est un jeune comme ça. C'est pour ça, sur les réseaux, ne dites pas le nombre de cryptos et les volumes que vous avez, parce que voilà, ça peut attirer des personnes violentes, des choses comme ça. Donc pour revenir sur ça, toi tu utilises un exchange, mais est-ce que si moi j'ai une clé ou un wallet Ledger, tu peux me donner la possibilité de mettre mon token immobilier sur mon wallet ou pas du tout, ou je suis obligé de passer par l'exchange?
Alors, il faut différencier deux choses. Il faut différencier le loyer net, enfin le revenu net, on va dire, qui est distribué en stablecoin, donc en USDC, en DAI, en USDT, bon, c'est des exemples de stablecoin. Aujourd'hui, à Realty, nous utilisons l'USDC, qui est le plus, pour des raisons de stabilité et de confiance.
Parce que, moi, je te coupe, on en a parlé en off un petit peu, mais je te racontais un petit peu les agressions que je subissais sur Twitter, où je disais à des gens, non, les stablecoins ne sont pas un livret A. Alors que voilà, il y a un petit jeune étudiant de 20 ans qui m'expliquait que c'était moins risqué de mettre, mais effectivement, aujourd'hui, regardez un petit peu les enquêtes, tout ça sur l'USDT, on n'est vraiment pas sur des produits garantis. Donc quand on parle de stablecoin, il faut bien différencier quel stablecoin.
Voilà, on est d'accord. L'un des premiers était l'USDT. Mais il y a une certaine opacité, je trouve, mon appréciation personnelle, derrière, tandis que dans le cadre de l'USDC, il y en a moins. Celle que je préfère d'un point de vue philosophique, c'est le DAI. Mmh. Mais il y a eu un problème lorsque, pendant le Covid, au début du Covid, il y a eu ce qu'on appelle le jeudi noir, et le DAI a perdu son rapport de 1 pour 1 par rapport au dollar. Donc le but des loyers ou des revenus nets, ce n'est pas de spéculer. Donc on reçoit les revenus, il faut que ce soit un pour un.
Parce que si tu veux spéculer sur les loyers que tu as reçus, tu rajoutes une strate de risque.
De risque,
absolument. Voilà. Bon, tu peux booster le rendement, mais ça va avec le risque que tu vas mettre par ailleurs.
C'est pas le but. Là, c'est vraiment d'avoir les revenus en dollars. Point. Ceci étant, tu as parlé du risque de l'échange. Alors, effectivement, quand on utilise un échange, il y en a des très bons et des très respectables, Kraken, Bitstamp, Coinbase, etc., qui sont régulés, qui sont parfaitement intégrés dans la finance aujourd'hui, dans le monde financier, j'entends. Le but est de faire l'échange. Ce n'est pas de garder ses cryptos ou son token sur l'échange. Autant les blockchains sont, en tout cas aujourd'hui, inviolable d'un point de vue hacké, on peut pas les hacker, ce serait extrêmement difficile, autant l'échange peut l'être. L'échange est centralisé. Donc quand on dit « Ah, mais il y a eu un scandale, ça a été hacké, etc. » Non, la blockchain ne l'a pas été. Par contre, l'échange, elle a été. Donc le but, c'est de faire la transaction et de récupérer son token dans son wallet, c'est-à-dire Ledger ou MetaMask, ou il y en a plein.
Concrètement, ton client investisseur, il reçoit quoi? Un push sur une appli, une communication, ça y est, le loyer du token est tombé, on est le 2 du mois, tout de suite, toi tu conseilles?
On le pousse, alors non, nous on le pousse directement sur l'adresse du wallet.
D'accord, ok.
Directement, c'est-à-dire que le lundi il se réveille et puis il a été crédité du montant net de...
D'accord,
voilà.
Ok.
Maintenant, il y a le token lui-même immobilier qui lui ne passe pas par un exchange, comme Coinbase ou Kraken, etc., puisque l'émetteur directement, donc la compagnie qui détient l'immobilier, envoie ce token directement à l'acheteur du token.
D'accord. Et il y a quelque chose, donc moi qui me fait toujours peur sur la crypto de manière globale, c'est que grosso modo, je me fais saucissonner, j'aurais pas dû utiliser ce terme qui est très très piégeux. Voilà, donc je donne à un malfaiteur ma clé crypto, c'est fini pour moi. Je donne mon numéro de carte bleue, on retire de l'argent. Dans un système centralisé, je peux aller voir ma banque via un système d'assurance de ma banque, ils me remboursent mon argent.
Alors,
je t'ai écouté dans d'autres podcasts, et on va faire de la pub notamment de Mathieu Stéphanie, la Martingale, et surtout de Loïc Codet qu'on embrasse de Club Deal, son podcast. Ce que tu avais l'air de dire et que moi je trouve hyper intéressant, c'est que tu peux, si on me vole mon token, tu peux, avec un système administratif qui est peut-être chiant à mourir, mais voilà, tu peux me remplacer mon token, ce qui n'est pas le cas sur la crypto.
Alors, je ne peux pas remplacer les USDC, donc les versements de
les
revenus.
Loyers, ça, c'est perdu.
Les loyers, c'est perdu. Vous perdez votre clé, c'est perdu, je ne peux rien faire.
Mais mon actif immobilier.
L'actif immobilier, le token immobilier, lui, pour des raisons de compliance, je dois pouvoir le détruire si besoin est. C'est une procédure administrative lourde et pénible, mais c'est possible. Donc, si jamais vous vous faites voler, ou si jamais le gouvernement me demande certaines choses, je peux agir dessus. Il y a une procédure, il faut la permission, il faut ceci et cela, mais je peux donc brûler ce token et le réémettre pour l'émetteur. D'accord. Donc là, je peux le protéger. Par contre, les loyers sont perdus, oui.
Ouais. Bon, ça, après, c'est chacun qui doit prendre ses responsabilités sur la conservation de ses cryptos.
Il faut connaître
les cryptos, il faut prendre le temps d'apprendre. Au début, ce n'est pas intuitif, surtout pour les boomers, la génération X, etc. Ce n'est pas intuitif. Par contre, ça s'apprend et ça se maîtrise. Et après, on est tous adultes, vaccinés.
Une parenthèse pour revenir sur mon conflit et ma prise de bec Twitter concernant les stablecoins, pour expliquer, donc l'USDT, c'est des prêts d'entreprise,
on va dire, aux entreprises, pour vraiment vulgariser. L'USDC, ça, c'est plus le, comment dire, on va calculer le taux d'acceptation du Bitcoin, c'est bien ça?
Et si ce taux d'acceptation chute, il y a un risque?
Non, dans l'USDC, en théorie, il y a un audit, c'est vraiment $1 pour un token émis. C'est vraiment ça la philosophie derrière, on ne va pas rentrer dedans, parce que d'abord, je ne maîtrise pas à 100% la façon dont ça a été fait. Mais autant je sais que l'USDC a été audité à maintes reprises, autant l'USDT ne l'a pas été.
Donc d'où l'intérêt de dire que quand on vous parle de stablecoin, de, encore une fois, déterminer quel stablecoin. Donc toi, tu es vraiment sur l'USDC?
Aujourd'hui, on est sur l'USDC. Dès que le DAI redeviendra à nos yeux solide, peut-être qu'on basculera sur le DAI, ou peut-être que l'on donnera le choix au token holder de choisir le stablecoin qu'il préfère. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas.
Ok. Donc pour résumer, toi, tu sources des biens pour le moment aux US.
Oui.
Après, on va parler de ça, du développement de la boîte.
Oui.
Pour le moment, aux US, l'idée, c'est d'aller trouver une rentabilité.
Absolument.
Voilà, tu t'occupes de l'ensemble de la gestion. Tu redonnes au prorata du nombre de tokens détenus du dollar que, via une plateforme, tu vas transformer en crypto. Et là, du coup, l'investisseur reçoit ses stablecoins. Après, il veut les laisser en stablecoins, il veut les transformer en euros, ça le regarde. Il veut le transformer en dollars, ça le regarde.
Il va acheter autre chose avec, ça le regarde.
Voilà.
Ou il va acheter plus de tokens immobiliers, c'est très bienvenu.
Question, du coup, est-ce que tu proposes, comme on voit dans certains SCP ou des contrats d'assurance vie, des versements programmés? C'est-à-dire, est-ce que je peux, au lieu de faire un acte d'achat, à acheter à chaque fois mon token à $50, est-ce que je peux faire du DCA, donc du dollar cost averaging, sur ta solution, en disant, c'est-à-dire que je vais épargner pour, bon là, tu n'as pas de fluctuation de valeur immobilière très, 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 très volatile, mais mettons par exemple, j'aime ta solution, tous les deux du mois, sur mon salaire, j'ai envie que, automatiquement, je t'achète un token par mois pour épargner, $50 sur ta solution, est-ce que je peux automatiser ou est-ce que je dois faire cet acte d'achat? Est-ce que je dois acheter, faire le process pour acheter le dollar? Ou est-ce que je peux l'automatiser cet achat?
Alors, il y a deux façons. La première réponse est que vous devez le faire manuellement, ce n'est pas automatisé. Il faut accepter l'achat, signer des documents, lire toute la paperasserie qu'il y a et qui est importante, qu'il faut lire. Okay. Et se dire je veux vraiment ce bien, le décide, il faut le choisir.
Okay.
Ensuite, par contre, ce qu'on peut faire, ce qu'on met en place, c'est un système où les loyers reçus nets, eux, peuvent être réinvestis dans une autre propriété automatiquement si vous en avez fait la demande.
Comme du dividende réinvesti sur un indice.
Exactement. Là, par contre, vous devez aussi, lorsque la maison est disponible pour ce réinvestissement, en quelque sorte, vous devez d'abord l'approuver. Dire je veux que que mes loyers soient mis dedans.
D'accord.
Et à partir de ce moment-là, ça sera fait jusqu'à épuisement de cette maison.
Ok. Et donc là, c'est le principe des intérêts composés.
Absolument.
Où je fais boule de neige pour avoir un capital plus important à terme. Soit je revends mon capital à terme si j'en ai envie, soit j'ai une rente qui sera d'autant plus importante qu'aura bénéficié des intérêts composés. Ok. Donc, je pense que pour la partie crypto, on a... Désolé pour les gens très techniques, je pense qu'on a fait le tour.
Je tiens juste faire une précision, c'est que nous parlons ici d'un token qui exprime un bien immobilier indirectement. C'est complètement décorrélé du marché des crypto-devises dont on entend parler. C'est-à-dire que les fluctuations, Ethereum monte ou Bitcoin monte, ou etc., ça n'a rien à voir avec la valeur directe du token. Rien.
Ouais, parce que tu es sur une valeur immobilière classique.
Absolument.
Voilà. Donc le seul souci, c'est que si tu as le marché qui s'effondre immobilier, et le marché de la crypto qui s'effondre en même temps, voilà. Mais effectivement, tu peux être dans un produit diversification d'un portefeuille crypto.
Absolument.
En te disant, c'est la partie de mon patrimoine, c'est un peu de stablecoin, un peu de crypto un peu plus dynamique que les classiques Bitcoin, Ethereum, même si ça reste dynamique quand on a une vision globale sur les autres types d'actifs. Voilà. Et le socle de mon portefeuille, pour diminuer en volatilité globale, c'est peut-être d'injecter un peu d'immobilier dans mon portefeuille crypto et dans mon patrimoine, on va dire, digital.
Je sais, et tu m'as prévenu, que tu n'avais pas le droit de parler de fiscalité.
Absolument.
Du fait que tu sois une société américaine.
Et que je ne connais rien à la fiscalité en général, je ne suis pas expert.
Et surtout la française vu que tu es canadien.
Alors, rien du tout.
Simplement, tu as, je crois, un avocat, Maître Coste, qui a mis un peu de...
Alors non, Maître Coste est un... Ce n'est pas l'avocat de Realty.
D'accord.
Ce n'est pas notre avocat, c'est un utilisateur, un investisseur dans Realty qui a fait une analyse de lui-même, juridique,
qui
fiscale, qui n'engage que lui, et on a apprécié l'effort. On a trouvé ça très gracieux de sa part et et c'était apprécié. Nous, on n'a aucun jugement dessus.
Pourquoi il irait acheter de l'immobilier, tu vas nous dire dans quelle ville, Détroit, Miami, Austin, voilà.
Alors, déjà, je ne sais pas si c'est stratégique, judicieux pour un investisseur français par rapport à un investisseur autre, d'un autre pays. Je ne fais aucune appréciation dessus, je ne fais pas de sollicitation en France. J'explique ce que nous, on propose. Ce qu'on propose, c'est vraiment un investissement dans des immobiliers, dans des domaines que l'on connaît, Rémi et moi. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît d'abord le résidentiel. On ne fait pas de commercial, du moins pas pour l'instant. Et il y a des villes dans lesquelles on a une certaine spécialité. Je devrais dire spécialisation. Je crois que c'est le bon mot. Notamment, on connaît très bien Montréal, puisqu'on est de là-bas. On connaît très bien Miami. On connaît très bien Détroit et ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire des villes qui avant étaient, pendant l'époque industrielle, comme Détroit, justement, en plein boom.
Cleveland.
Les voitures, exactement, Cleveland en faisant partie. Notre niche particulière, c'est ce qu'on appelle les sections 8, c'est-à-dire les revenus subventionnés, les loyers subventionnés, des gens qui ont des revenus modiques et dont le loyer est subventionné par l'État.
L'équivalent des logements HLM en France?
Je pense. Mais je suppose qu'en France, ce sont les immeubles eux-mêmes qui sont HLM.
Oui.
Aux États-Unis, il y a l'équivalent. Mais il y a aussi la norme section 8 qui est la personne elle-même a un ticket.
Ouais.
Et elle peut aller dans un logement qui simplement doit respecter certaines normes de qualité et de sécurité.
Mmh.
Et après, aménager dedans et dire simplement mon loyer subventionné.
Et qui te verse dans ce cas-là le loyer ? C'est le gouvernement.
Directement.
Et question bête, le gouvernement est bon payeur parce qu'en France, les pouvoirs publics, quand tu es prestataire de service pour les pouvoirs publics, tu t'aperçois que c'est les pires payeurs qui existent.
Je ne le savais pas. Aux États-Unis, on n'est pas. Alors, est-ce qu'on est prestataire de service pour les trucs ? Non, on est juste.
Non, mais voilà.
Mais voilà, on a pris un logement. On dit simplement, on l'a mis aux normes.
Ils sont bons payeurs, ils ne font pas galérer à...
Jamais.
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 Jamais, pas une seule fois, ils payent dans les temps, dans les trucs. Quand il y a un changement de locataire, il y a un vacillement, une balance à faire de 3 mois, le temps que la famille rattrape tout, et c'est tout. Tout est rattrapé, il n'y a jamais eu de défaut, et je pense que le gouvernement américain ne voudra jamais faire défaut dessus.
D'accord. Et est-ce que du coup, en section 8, ils te subventionnent pour des travaux ou pas du tout, c'est à toi?
Non.
C'est à toi.
Absolument. Ils subventionnent les loyers.
Les loyers.
C'est-à-dire qu'ils ne me subventionnent pas, ils ne subventionnent pas la compagnie propriétaire. Ils subventionnent le locataire.
D'accord.
Ce n'est pas pareil. Okay. Ils payent le loyer du locataire qui a des revenus modiques. Rien à voir avec le propriétaire du bien immobilier qui, lui, doit respecter des normes. Donc, il doit s'assurer que les rénovations sont maintenues. Il doit, au contraire, s'assurer que les dépenses sont faites. Sinon, il perd le droit d'avoir des locataires en section 8.
D'accord. OK.
Et ça, c'est une niche, une spécialisation qu'on a. On ne fait pas que des logements, que des loyers en section 8. On ne fait pas que ça.
Ça te permet de sécuriser dans ton portefeuille les loyers, ton risque les locatif.
Profits. Alors, ça permet de sécuriser le risque des paiements de loyers. Mmh. Ça ne veut pas dire que le revenu net est garanti. Je m'explique. Pendant la crise Covid, il y a eu beaucoup, pour la première fois aux États-Unis d'ailleurs, beaucoup de résidentiels qui n'ont pas payé.
D'accord.
Beaucoup. Et on ne pouvait pas vraiment faire d'éviction pendant la crise parce qu'il y a eu justement cet interdit du gouvernement fédéral.
Mais c'était, comment dire, limite une stratégie de ces personnes-là ou c'est vraiment des personnes qui ont perdu leur travail, qui sont devenues insolvables?
Ok. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Il y a eu des abus et il y a eu des gens qui étaient sincères. Il y a eu les deux. Je pense que c'était partout pareil. Seulement, nous, on continue à percevoir nos sections 8, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est le phénomène qui s'est créé? C'est que beaucoup de gens ont dit, alors qu'avant, ils regardaient cette niche avec un peu de snobisme et de dédain, peut-être, ils se sont dit, mais c'est génial, on va y aller. Et ils ont acheté n'importe quoi, n'importe comment. C'est un métier, c'est une spécialisation. Parce que oui, les revenus sont garantis par le gouvernement, d'accord. Mais il y a toutes les normes à respecter, il y a toutes les rénovations à faire, il y a toutes les vérifications à faire régulièrement. Et ça coûte beaucoup d'argent.
Est-ce que d'ailleurs, ça m'intéresse, parce que j'ai fait des gros travaux pendant quasiment 2 ans aujourd'hui, t'as un coût à peu près d'une rénovation totale au prix au mètre carré?
Non,
aux US?
Ça dépend vraiment de l'état de la propriété quand on l'achète.
D'accord.
Après, de la maintenance elle-même et maintenir une propriété en bon état, et c'est là qu'est le défi, c'est que ça dépend du locataire lui-même. N'oublions pas qu'à Détroit, il y a quand même des quartiers qui sont en pleine rénovation en ce moment. C'est pour ça qu'on a aimé Détroit et qu'on a choisi Détroit. Mais il y a quand même aussi de la violence, il y a aussi des gangs, il y a aussi des quartiers difficiles.
Il y a un taux de population qui vit en dessous du seuil de pauvreté qui est hyper élevé?
Absolument. Qui est hyper élevé, qui diminue,
oui.
En tout cas.
Mais
il y a vraiment...
qui
reste important. Et donc, il y a
mais
beaucoup
toi,
de...
Mais toi, à la limite,
c'est pas très grave. Tu as plus de sections 8 là-bas. Dans ce cas-là.
Tout à fait.
Mais... Donc, tu as un marché plus profond.
Mais après, il y a maintenir le bien en bon état. Okay. Ce qui n'est pas toujours évident.
Je pense à cette question en te parlant. Qui te paie réellement? Parce que c'est l'État fédéral ou c'est l'État, entre guillemets, local?
Alors, il y a des programmes fédéraux et ça passe après par d'autres subsections qui sont étatiques.
Ok, c'est pas la mairie.
Il y a 51 sections. D'accord. La section 8 ne fait que partie, je crois que c'est 51, je ne sais même plus.
Je me disais, c'est bien beau d'avoir, mais si c'est la mairie de Détroit qui te, qui te garantit le loyer. Ouais,
non,
je dis ça parce que malheureusement, la ville a fait faillite. Mais...
Non, le loyer, ouais, justement, c'est pour ça qu'on y a été. Ouais. Comme on avait fait Montréal. Montréal, quand on a investi là-bas, c'est parce qu'il y avait ce fameux référendum, tout le monde voulait fuir. C'est très facile de dire, on va investir quand c'est bas. On va acheter quand c'est bas. Tout le monde sait que c'est ce qu'il faut faire. Psychologiquement, c'est très difficile. Très. Les gens ne le font pas.
Et donc aujourd'hui, tu arrives à une rentabilité à peu près brute de combien dans tes investissements? Pas celle que tu redonnes au token holder, ou celle que toi, tu arrives à dégager?
Avant le frais, avant le truc, on est dans du 14-15.
D'accord.
Et sur le dollar US, mais en net, on est dans du 10. Oui, 10, 11. Au début, quand on a démarré Realty, on était à 12, 13. On ne l'a plus. Parce que les prix ont augmenté.
Ton modèle économique à toi, tu ne prends pas comme les SCPI des frais de gestion?
Non. Alors, oui et non. C'est-à-dire que notre modèle de rémunération est simple. On prend 10% lorsqu'on met le token sur la plateforme, Realty. Donc, elle a été bon prendre 10% de la première émission.
Donc, concrètement, quand moi, je t'achète un token à 50, mon token, il vaut 40. 10%, je dis voilà, n'importe quoi, on arrive en fond. Oui, non, non, il vaut 45.
Oui, 10%, je dis. Voilà, j'allais dire, là, ça fait beaucoup.
Oui, non, non, il vaut 45.
Alors, oui. Oui, le token vaut quand même 50, mais parce qu'on a, je vais l'expliquer, mais oui, disons que le sous-jacent vaut 45.
Et le rendement que tu donnes à l'investisseur, il part des 50 ?
50.
C'est ça, et à peu près aujourd'hui, vous êtes, tu me diras,
ça entre 10 et 11, ça dépend des maisons, ça dépend des endroits. Oui. Par exemple, on est à Détroit, on est sur du 11, en Floride, on est sur du 7.
D'accord. Et est-ce que tu as une idée
de... Et à Chicago, on a fait du 8. Ouais. Donc, voilà.
Est-ce que tu as une idée de...
Et à Chicago, on a fait du 8.
Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu es dans une idée de gamme, un petit peu comme on trouve dans les fonds classiques en France, grosso modo, vous avez un fonds sécurisé, vous avez un fonds moyen, on va dire, et un fonds très dynamique, et que tu préviens que là, aujourd'hui... Bah...
Non. Non, on n'a pas ça. Et ce n'est pas le but de créer ça. Le but, c'est... de faire des propriétés individuelles avec des profils différents. Donc, si jamais quelqu'un veut se créer un portefeuille dynamique, il achètera des tokens de ce profil-là et créera son propre portefeuille dynamique. S'il veut acheter que du résidentiel à Chicago, il aura son portefeuille Chicago. Il n'achètera pas les propriétés de Détroit.
Donc aujourd'hui, toi, tu n'exclus pas dans le futur avoir une stratégie un peu plus prime. Sortir un petit peu de cette section 8 pour les gens qui voudraient dire j'ai envie de faire du realty mais j'ai un problème, et on en parlait en off qu'il y a des CGP qui ont fait n'importe quoi à vendre du Détroit et qu'on voilà des vrais escrocs, qu'aujourd'hui notamment pour un Français il va taper Détroit, il va trouver mais sur Google un nombre d'articles qui vont vraiment le dégoûter de
Mais je veux bien le croire.
D'investir un Détroit. Donc toi, est-ce que tu veux aller dans une offre où, après, il ne faut pas qu'ils s'attendent à, si tu investis, je ne sais pas, à Miami ou dans des villes chères, qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent à 7 ou 8%.
Exactement. Ouais. Donc effectivement, c'est déjà en train de se passer. L'immobilier, il faut le diversifier quand même. Donc nous allons dans d'autres villes, dont par exemple, on a fait Orlando, on a fait l'État de New York, Cleveland, Chicago, on regarde beaucoup d'autres villes en ce moment. Et même dans les catégories de propriétés, nous allons proposer différentes gammes, absolument. Mais c'est certain que le yield, le rendement s'adapte. À New York, par exemple, dans la ville de Manhattan, si on a du 2%, c'est bien.
Non, bien sûr.
On ne fait pas d'effet de levier, attention. Donc 2%, c'est bien.
Donc là, clairement, les risques, c'est un risque en capital.
Classique.
Sur la montée ou la baisse du sous-jacent et du lieu où on investit. Donc le token peut s'apprécier ou se déprécier en fonction du marché.
Absolument.
Voilà. On va avoir le risque locatif que toi, tu vas essayer de maîtriser au mieux dans ton property asset management, ta stratégie. Absolument. Voilà. Mais il peut avoir, comme tu le disais, un revenu fluctuant.
Oui.
À la limite, c'est... Je vais dire que c'est pas très grave, on veut toujours avoir le meilleur des rendements. Mais comme tu n'as pas de prêt en face, contrairement à des stratégies qu'on peut mettre en place sur des SCPI ou autres, tu n'as pas une mensualité fixe à rembourser.
Exactement.
Donc à la limite, si mes revenus passifs de Realty me donnaient un peu moins et que je comptais sur ça pour partir en vacances, pour caricaturer, les vacances seront peut-être un peu moins longues ou un peu moins belles. Mais voilà, il y a moins de risques que si tu as un prêt en face où là tu te dis que tu es obligé de remettre... plus d'efforts d'épargne pour...
Alors, c'est exactement pour ça qu'Arilti, on a décidé de ne pas travailler avec un effet de levier. Il faut imaginer la situation. Une propriété peut avoir jusqu'à 300, 400 token holders. S'il y a un prêt et que d'un coup, le prêt n'est plus en balance, c'est-à-dire que le marché a chuté et le loan to value est plus élevé. Donc, il faut rajouter de l'argent.
Loan to value, pour expliquer.
C'est le prêt par rapport à la valeur, la taille de l'emprunt par rapport à la valeur de la propriété.
Et justement, ça va être une question pour expliquer un petit peu comment ça se passe aux États-Unis. C'est, encore une fois, on va vulgariser, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et c'est ce qui a créé le problème des subprimes, c'est qu'aux États-Unis, on va analyser, vous allez avoir une ligne de crédit par rapport à votre résidence principale, vous avez acheté une valeur de 100, vous avez remboursé au bout de quelques années, il vous reste plus que 90 à rembourser. La maison, allez, on va dire, a pris 20%, donc aujourd'hui, elle vaut 120. Donc, vous allez pouvoir aller voir votre banquier si vous voulez payer les études qui sont très chères de vos enfants ou vous acheter une maison ou consommer tout simplement en lui disant, voilà, j'ai une valeur nette hypothécaire possible de 30.
Absolument.
90, le capital qui me reste à rembourser, moins la valeur de mon actif à 120. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous endettez et que le bien s'effondre, on peut venir saisir votre maison. Ce qui a permis, dans ton cas, de faire de belles affaires à l'acquisition, mais qui crée un risque. Et notamment, là, c'est plus un point macro sur le marché américain. Aujourd'hui, mais comme je te disais, j'étais au Texas le 2007-2008, pendant le début des subprimes, et on s'est dit, plus jamais ça, loan to value, c'est fini. Et là, moi, je lis des articles aujourd'hui, où ça y est, on est plein de balles en loan to value, parce que les marchés sont super... Et donc des gens se disent, ben, je vais mettre l'écart hypothécaire de ma maison sur les marchés pour gagner beaucoup d'argent. Sauf que si ça se retourne, c'est une catastrophe. Donc moi, c'est ce qui me fait peur aujourd'hui. Est-ce que toi, bon, t'as pas de boule de cristal, mais est-ce que tu vois un marché américain immobilier qui pourrait souffrir de ce côté malsain, en fait?
J'ai pas de boule de cristal en effet. Tout ce que je sais, c'est que l'immobilier aux États-Unis comme en Europe hein, repart de plus belle, hein, de façon assez fulgurante. On atteint des pointes qu'on n'a jamais atteint auparavant dans certaines villes. C'est vrai que les emprunts hypothécaires repartent, mais il y a quand même le spectre de 2008 chez les banques. Et il y a quand même des mesures qui ont été prises.
Ils ne sont pas totalement amnésiques.
Ils ne sont pas totalement amnésiques, non.
D'accord.
Non, il y a quand même, il y a plus de vérifications qui sont faites, il y a plus d'enquêtes sur la possibilité de prêter, etc. Non, il y a quand même une amélioration. Maintenant, de là, dire que ça ne va pas se repasser, ça, j'en sais rien. Vous savez, quand un marché est en plein boule, justement, en plein truc, les gens pensent que ça va durer pour toujours.
Et ce que tu me disais en off, c'est que contrairement au marché, notamment français, et même certains marchés européens, le marché américain immobilier fluctue.
C'est ça qui est magnifique.
Voilà.
C'est-à-dire que
fortement, quoi.
Aux États-Unis, quand il y a une crise immobilière, moi, j'ai été surpris d'entendre, c'était en Allemagne, je pense, on a parlé d'une crise immobilière, il y avait une baisse de 5% ou 7%. Non, aux États-Unis, quand il y a une crise immobilière, on voit des... C'est une vraie crise, c'est-à-dire que...
Je pense que si tu as un 5 ou un 10, les médias, en France, les médias spécialisés BFM Business, ils sont en alerte, ils sont...
Donc, aux États-Unis, à Miami, pendant 2008... il y avait des pertes de plus de 50%. Enfin, c'était de ça dont on parlait. C'était quand il y a une crise, c'est une vraie crise. Par contre, l'inverse est vrai aussi. Quand ça repart vraiment. C'est-à-dire qu'on a des performances qui ne sont pas de 3% ou plus 4%. On parle de plus 20%, 25%, 30%. On le voit ça dans des villes. Et d'ailleurs, cette année, enfin en 2021, nous l'avons vu dans certaines villes. Aussi incroyable que cela paraisse.
T'as des exemples de villes où...
Bah, Miami a énormément progressé, énormément. Je pense que l'immobilier à Miami n'a jamais été aussi cher qu'aujourd'hui.
Ce que me disait David Amsalem, je vois aujourd'hui des villes, t'as pas mal de sociétés de la tech qui quittent à la fois New York, quoi. Beaucoup d'investisseurs quittent New York pour des notions de bureau et que le Covid a montré que New York sans les attraits des grandes villes comme Paris, la vie nocturne new-yorkaise, culturelle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que tu es dans des petits espaces, il fait pas beau, voilà, tandis qu'au moins...
C'est une question fiscale.
Voilà, et question fiscale, et j'allais dire le plus, surtout pour la Californie, où j'ai l'impression qu'il est dans un modèle très sociodémocrate, ainsi de suite, qui coûte cher, et qu'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes aller au Texas qui sont très pro-business culturellement. Exactement. La caricature, c'est Elon Musk. Voilà, et qu'aujourd'hui, on dit que la Floride et le Texas vont être...
Ils le sont. Ils le sont. Il y a énormément de gens de la finance qui quittent New York, des fonds, des hedge funds, qui quittent New York pour aller s'installer en Floride, parce que les taxes sont moins élevées, et il fait bon vivre en Floride, il faut le dire. Et le même raisonnement pour les compagnies tech de la Californie, de la Silicon Valley, qui vont se retrouver aussi en Floride. Et la Floride, en ce moment, explose. Ouais. Parce qu'ils ont cet influx de gens de New York et de Seattle et de Silicon Valley qui arrivent. C'est impressionnant.
Ah, et qui plus avec le remote, le télétravail.
Alors, oui, ça aide beaucoup, mais il y a des équipes entières qui déménagent. Ouais. Maintenant, dans les banques new-yorkaises, ou les banques d'investissement new-yorkaises, la finance traditionnelle, elle n'aime pas du tout le concept de la personne qui va skier au Colorado, se payer des salaires de New York, mais vivre au Colorado. Et ils le disent bien. Ils le disent bien. Très bien, vous voulez télétravailler, vous voulez être...
Ça sera le salaire local.
Ça sera, voilà, on vous paiera salaire local. Vous n'aurez pas les salaires new-yorkais si vous décidez de télétravailler du Colorado. Donc revenez.
Ok.
Et ils reviennent. Ils reviennent.
Ok. Autre point un petit peu technique que je voulais voir avec toi, puisque je t'ai dit que je t'avais découvert dans d'autres podcasts. Et j'avais pas fait forcément le lien avec un tweeto qui proposait à la vente du Realty. Et notamment, du coup, moi, je l'ai bombardé de questions. J'ai vu qu'il était absolument pas formé. Il m'a juste renvoyé le lien de votre foire aux questions sur votre site internet. Et il y a quelque chose pour moi qui a un vrai sujet. C'est le fait qu'il n'y ait pas de régulation. Donc ça... faut voir, mais dans quel sens? C'est par rapport à la valorisation du token.
Bien sûr.
Tu vas me dire que y a un expert indépendant.
C'est ce que je vais te dire, oui.
Voilà. Sauf que, c'est pareil, mes copains auditeurs vont m'en vouloir ou qui font de l'audit. Moi, j'ai un problème avec cette notion d'expert indépendant. Notamment sur des SCPI, je vais pas balancer le nom de la société de gestion qui a été condamnée par l'AMF pour pas entente avec l'expert indépendant, mais au moins quelques.
J'avais pas vu ça.
Voilà, mais opacité, on en parlera après. Grosso modo, et que c'est un vrai problème des experts, c'est quand, mais pareil, c'est classique chez un vendeur quand tu prends un mandat immobilier, c'est que si tu commences à donner une véritable expertise et qu'elle ne va pas dans le sens du client, tu perds le client. Donc, tant que l'expert n'est pas, pour moi, étatique...
Je comprends. Alors, pour répondre à ça...
Attends, 30 secondes pour finir. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? T'as, sur les SCPI, le patrimoine est expertisé par dire d'expert, sauf que l'AMF peut vérifier que l'expert fasse bien son boulot, deux, que les documents qu'il ait reçus les bonnes infos de la part de la société de gestion, parce qu'il faut que ça soit transparent pour qu'il fasse bien son boulot. Voilà. Tandis que là, je ne dis pas que tu vas corrompre un expert, je ne dis pas ça, mais je dis que simplement, il peut avoir un biais professionnel qui est de dire, comme quand tu fais du M&A et que tu fais une valorisation d'une boîte d'un client, tu vas dire, mais sa boîte, si je commence à lui dire qu'elle vaut 50% de moins ce qu'il attend, j'ai peut-être perdre le mandat.
Oui, je ne pense pas que ce soit comparable, non, parce que c'est les gens qui font une évaluation, ils ont quand même une licence pour le faire. Ils risquent de la perdre. Et je pense que pour une maison à 80 000 ou 70 000 dollars, ils ne vont pas risquer leur licence. Même si j'en propose 10, souvent, ils en ont d'autres à faire. Pour une propriété multirésidentielle qui vaut 400 000 dollars, ils ne vont pas risquer leur licence. On les fait une fois par an. Et ensuite, ces expertises montrent quand même dans leur rapport les biens qui ont été vendus dans les mois ou les semaines précédentes. Donc, ils reflètent quand même dans leur rapport le marché lui-même. Ce qui compte dans l'expertise, c'est qu'ils regardent l'état général de la propriété, la réalité des paiements du niveau du loyer et les transactions du marché qui ont eu lieu à côté, dans le quartier. Et ça montre la valeur marchande. Et c'est ça qui est importante.
Et donc, ton token est valorisé chaque année?
Alors, nous valorisons aujourd'hui, le token est valorisé une fois par an, suite à l'expertise, à cette expertise.
C'est quoi, 31 décembre?
Non, c'est à la date, ça roule. C'est-à-dire que c'est à la date d'émission, Si jamais ça s'est fait, par exemple, le 1er mai, ben, tous les 1er mai, cette compagnie sera évaluée.
D'accord.
Alors, il y a...
C'est la date anniversaire.
C'est la date d'anniversaire maintenant. Aujourd'hui, on est une start-up, hein, on met les process en place, on est en train de tout construire. Ce n'est pas encore parfaitement au point la date fixe. Il y a quelques semaines ou mois même de battement. Des fois, c'est un peu avant, des fois, c'est un peu après. Mais le but, c'est d'arriver à la date d'anniversaire précisément.
Ok, super. Je crois qu'on a fait un bon tour. J'ai oublié de te prévenir qu'il y avait, je suis désolé, donc tu as le droit à un joker, qui a une question de fin de podcast, qui est une recommandation, idéalement, pas dans ton métier, dans ta sphère professionnelle, voilà, quelque chose dernièrement qui t'a plu. Ça peut être un cru si t'aimes le vin, de la musique, un spectacle, un endroit, t'es natif de Toronto, je crois.
Je suis né à Toronto, j'ai vécu à Montréal.
Montréal, un endroit que tu dis, ben, si vous êtes, je sais pas, en vacances à Montréal, que t'as pas dans le guide du retard, absolument y aller. Un truc, voilà, que comme disent les jeunes, t'as kiffé dernièrement, que t'aimerais recommander aux spectateurs, aux auditeurs de ma question préférée.
Je réfléchis parce que j'ai pas été dans beaucoup d'endroits à cause du Covid récemment.
Une plateforme crypto ou un truc vraiment que tu as trouvé?
Alors, il faut qu'on en parle. C'est très bien comme question, j'aime beaucoup. On a touché rapidement le concept de finance décentralisée. Mmh. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est aux jeunes qui nous écoutent et aux moins jeunes. Et pour les moins jeunes, c'est plus difficile. Moi, j'en sais quelque chose, hein, barbe blanche, ça reflète quelque chose, ça c'est ma montre qui se m'a parlé, c'est d'apprendre, de se renseigner sur ce qui se passe dans cette industrie qu'on appelle largement la finance décentralisée. Aujourd'hui, on a parlé de Realty. Realty est une compagnie qui peut ne pas œuvrer dans la finance décentralisée, mais qui essaye de le faire. On fait tout pour s'imbriquer le plus possible dedans. Je m'explique. Il y a une compagnie qui s'appelle AAV qui fait ce qu'on appelle des flash loans. Okay. C'est-à-dire que vous venez avec votre crypto, vous le placez en collatéral sur la plateforme AAV et ils vous prêtent de l'argent contre. Okay. Et c'est automatisé.
De l'argent crypto ou de l'argent
crypto, d'accord. Crypto, mais ça peut être du USDC, ça peut être de l'Ethereum, ça peut être du Bitcoin, ça peut être ce que vous voulez. Ou okay. Ça peut être des actifs, ça peut être d'autres types de crypto et chacun a son algorithme, son truc, et ils vous prêtent. Eh bien, autant nous, on ne fait pas d'emprunt sur la propriété elle-même. On n'est pas financé, il n'y a pas d'effet de levier. Par contre, l'utilisateur lui-même pourra, dans les jours à venir, parce que ça fait un an et demi qu'on bosse dessus, prendre son token Realty, le mettre sur la plateforme AV et emprunter contre le token.
D'accord. Donc là, tu reçois des cryptos qui te permettent...
De faire ce qu'on veut. Il y a des intérêts à payer à la plateforme, à AV.
Tu as une idée du taux à peu près?
C'est encore à être établi. Okay. Mais l'idée étant que les revenus locatifs devraient pouvoir payer les intérêts. Donc, c'est le but qu'on essaye de faire. C'est un arbitrage, une sorte d'arbitrage. On essaye d'aller vers
ça. Tu achètes en cash un token Realty.
Oui.
Tu le mets en collatéral sur cette plateforme.
Exactement.
Qui te donne du cash. Ouais. Idéalement pour toi, pour acheter le deuxième token.
Oui, pour acheter un deuxième token, ça serait l'idéal, mais pour faire d'autres staking dans la finance décentralisée. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ce genre de plateforme, AAV, c'est un autre acteur dans cette industrie de finance décentralisée. Il y a aussi ce qu'on appelle les DEX, Decentralized Exchange. Il y a des compagnies comme OneInch ou Opium Networks qui permettent de faire des contrats financiers décentralisés. Alors nous, on a choisi avec notre partenaire Opium Networks de faire de l'assurance sur les revenus locatifs, sur ceux qui ne sont pas S8. Mais Opium Networks fait beaucoup plus de choses, beaucoup, des futurs, des garanties, c'est immense cette industrie qui émerge en ce moment, qui est compliquée d'un point de vue régulatoire, c'est vrai, mais les acteurs sérieux essaye vraiment de faire tout ce qu'il faut pour être compliant.
Okay.
Et ça, c'est vraiment le conseil, c'est plonger dedans. C'est passionnant et c'est l'avenir.
Ok, c'est un super conseil. Je te remercie. J'espère qu'on fera peut-être d'autres épisodes dans l'avenir. Voilà, n'hésitez pas. Oui, où c'est qu'on peut te retrouver si on veut simplement te poser des questions, connaître Realty en détail, le site internet?
Le site internet, et de là, suivez les liens vers les réseaux sociaux, Telegram. Ouais. On est très actifs, Discord et Intercom directement dessus. Voilà.
Okay, le site internet, on peut t'ajouter sur LinkedIn aussi?
Sur les, absolument. Voilà. Absolument.
Bon. Idée pareil pour moi, si vous voulez parler de votre situation patrimoniale, donc vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, on va modifier un petit peu le système de vidéos en mettant des mini-vidéos par thème, parce que j'ai vu et j'ai eu des retours comme quoi, là je sais pas du tout combien de temps on a tourné, mais quand on fait plus d'une heure, c'est très compliqué à rester une heure devant YouTube, mais vous avez toujours la version podcast si vous êtes dans les bouchons, sur un tapis de course, dans une salle de sport ou si vous avez un aspirateur à la main.
Et vous pouvez regarder avec à la vitesse 1.5 x 2. Exactement. C'est très compréhensible et ça marche très bien.
Ouais. Pour gagner un peu de temps. Et de toute façon, on va faire des mini-vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci Jean-Marc.
Merci beaucoup. Merci.